Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Michel Lapierre-Dallaire autour de son livre. Y avait-il des limites ? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. Paru au Nouvel Attila. Le 4 avril 2023, à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Ce soir, on se reçoit Michel Lapierre-Dallaire pour son livre Y avait-il des limites ? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. Peut-être on aura l'occasion de nous redire. Comment est-ce qu'on prononce le titre ? Est-ce qu'il y a des ponctuations par endroit ? C'est paru au Nouvel Attila et cette rencontre est modérée par Adèle Cassignol. Merci beaucoup, je te laisse la parole Adèle.
Merci. On m'entend ? J'ai pas l'un... Ok. Ah là, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, je ne vais pas m'aventurer à redire le titre, à moins qu'il y ait effectivement, comme tu disais Baptiste, une ponctuation particulière, mais je n'ai pas l'impression.
Si. Non, pas du tout.
On se l'approprie.
Donc, il n'y a pas de ponctuation. Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Oui. Et l'idée, c'était vraiment de le dire d'un trait, d'un souffle. On ne peut pas reprendre sa respiration. Il faut le dire d'un coup. Ouais.
C'est ça. Et on perd le souffle.
Oui, exact.
Alors, c'est un texte qui met sans dessus dessous. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est véritablement un grand bouleversement. Dans lequel vous revenez sur les traumatismes de votre enfance et de votre adolescence. Il me semble qu'on balance beaucoup entre Eros et Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort, dans toute cette narration d'humiliation et de révolte qui ont convulsé votre existence. On reviendra aussi sur le dispositif autofictionnel du texte. Il me semble qu'on est ici dans le cas d'une littérature d'épanchement dans le sens strict du terme, dans le sens de s'épancher qui veut dire faire couler, déverser, répandre généreusement. Alors je vais vous, à l'appui de deux citations, entre moi et les autres, il n'y a aucune limite. Je me coule en dehors de moi-même, je ne sais pas m'arrêter au-delà du périmètre de mon corps. J'explose et j'implose sans arrêt. Mes émotions dégoulinent de mes yeux, de ma bouche, de mon sexe. Tout le monde voit à travers moi, et moi, je ne vois à travers personne. Et plus loin, dans les soirées, les invités apportent des salades de quinoa, des fromages coupés en dés parfaits, de la baguette bien tranchée. Moi, j'apporte l'ensemble de mes traumatismes d'enfant oubliés et je les étale sur la table. Pas d'ustensile, pas d'assiette. Et j'exige qu'on me regarde les manger directement sur le plancher avec mes mains. Donc le titre l'annonce, il est question de limites, des digues de la sociabilité et acceptable que l'on ne tient plus, des trop-pleins qui font dégobiller. Il est noté à un moment donné que la jeune fille est gavée de domptage et de docilité. À quel moment les mots se sont-ils mis à sortir ? De vous en geyser, comme ça.
OK, alors, petite mise en contexte. Donc, moi, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Je sais que je vais écrire un livre, mais je ne savais pas que c'est ça qui allait sortir. Pour être tout à fait honnête, tout ce que j'ai écrit avant, c'était pas vraiment bon. je pense que j'essayais de dire quelque chose qui était bloqué par une nécessité de nommer d'autres choses. Et ce livre-là, je l'ai écrit en fait pour Pas pour moi-même, mais en fait, je savais pas qu'il allait être lu au départ. Là. Évidemment qu'il a été retravaillé, mais ce livre-là a été écrit dans un, comme vous dites, dans une espèce d'urgence, de nécessité d'écrire sans m'arrêter, puis de pouvoir nommer des choses que j'avais jamais eu l'occasion de nommer de cette façon-là pour moi-même. Et je l'ai écrit en quelques semaines, peut-être un mois. Et après, le travail dessus a été refait, fait durant les mois qui ont suivi, pendant un an, parce que le travail d'édition, c'est tout un truc. Mais ouais, la substance, le fond de ça a été écrit d'un trait. Et je crois que je l'ai fait d'une façon aussi authentique parce que je ne savais pas qu'il allait être lu. Maintenant, par exemple, j'écris le deuxième qui sort en janvier prochain et j'écris pas de la même façon. Heureusement, j'ai mûri, là, j'ai changé, je suis plus aussi chaotique que ça, mais je me rends compte qu'on n'écrit pas du tout de la même manière quand on sait qu'on va être lu versus quand on n'a aucune idée de ça. Puis je suis tombée par hasard sur mon éditeur qui s'est avéré Je suis tombée par hasard sur Sébastien Dulude qui s'est avéré être mon éditeur au Québec. Puis on a connecté, il m'a demandé de lire qu'est-ce que j'écrivais, je lui ai envoyé, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai été très chanceuse aussi, et sociable, et saoule, ce soir-là d'ailleurs, d'avoir le courage d'y envoyer mes trucs. Mais oui, au départ, je savais pas que ça allait être lu, ce truc-là.
C'était un texte écrit pour soi-même, juste comme les autres textes depuis l'enfance, ça, parce que c'est intéressant, parce que l'écriture, elle apparaît peu dans ces histoires d'enfance.
Oui. Ben, en fait, au départ, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de la différence de parler en fait de l'écriture versus de l'histoire. Dans mon cas, au début, je parlais du livre en parlant de la narratrice, tout ça, mais je me mélangeais puis je finissais par dire oui, ma mère, non, la mère de la narratrice. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment dissocier, dans mon cas, pour ce livre-ci, le fond de la forme. Et. Quand j'étais petite, je sais pas si les gens ont tous lu le livre ici, mais quand j'étais petite, j'étais souvent enfermée dans ma chambre, puis j'avais pas accès à des choses pour écrire. Fait que pendant longtemps, j'ai lu Le Petit Robert 2007. donc j'ai lu plusieurs fois des définitions du Petit Robert. Puis après, le premier livre sur lequel je suis tombée, c'était Putain de Nelly Arcand dans la bibliothèque d'une amie à ma mère que j'ai volée complètement. Puis c'était pas du tout de mon âge de lire ça, mais j'ai lu, puis j'ai eu une révélation. Je me suis dit, on peut dire ces choses-là, on peut écrire, c'est valide. Puis là, ça m'a donné vraiment envie de me pratiquer à écrire dans mes petits journaux intimes. Mais j'avais beaucoup plus l'inspiration au départ d'écrire comme de la poésie. Je trouvais que c'était plus noble, un peu, mais je pense que j'étais vraiment victime des préjugés qu'on a eu longtemps sur l'autofiction, comme quoi c'est un genre très féminin, c'est un genre qui a été sous-estimé pendant longtemps. Maintenant, heureusement, il y a une reprise de pouvoir de l'autofiction puis des femmes là-dedans. Mais là, je suis complètement déviée de votre question, mais ok, c'est bon.
Justement, j'allais dire qu'en contrepoint de ces geysers et de cette urgence qu'on ressent beaucoup à la lecture, il y a le silence dont il est question à certains moments, de ce que l'on tait aussi pour se préserver. Et en écrivant, vous éventrez ce silence. Et donc ce choix de l'autofiction, je voulais juste lire un petit extrait. Je me sens puissante et auréolée comme Marie la Sainte Vierge. Sauf que je ne suis plus tellement vierge et que c'est une imposture qui peut seulement s'inscrire dans un livre. On appelle ça de l'autofiction. À partir du moment où tu dis au monde que ton livre, c'est de l'autofiction, tu peux tout dire de toi, enrober la vérité, la lustrer ou l'étendre dans des propositions ridicules. C'est correct. Les gens ne sauront pas dire si c'est ton histoire ou celle d'une autre, si c'est ta vie qui a l'air d'un article du DSM-5 ou si tu inventes tout ça pour te rendre intéressante. En tout cas, tu écrirais un livre. Et j'aime bien du coup, c'est la définition stricte de l'autofiction, c'est-à-dire on parle de soi en disant un peu à la manière que l'on veut, cette dimension de la fabulation de fabuler à partir de soi. Évidemment, on n'a pas des êtres fabuleux dans ce texte-là, mais qu'est-ce que permet l'autofiction ? Que permet pas le récit autobiographique stricto sensu ou celui carrément de la fiction, de la mise en fiction à travers des personnages qui changeraient de nom ou ce genre de choses?
Donc, dans le livre, il n'y a aucun nom. C'est des personnages chapeaux. Donc, il y a l'homme, l'amant, l'ami, la mère. Ben, là, il y a juste une mère, mais c'est des personnages chapeaux un peu qui regroupent plusieurs rencontres, plusieurs personnages que j'ai rencontrés. Je pense humblement que j'étais pas assez mature pour écrire un livre qui parle pas de moi. Je pense qu'on écrit toujours un peu sur soi, mais dans ce cas-ci, il y a tout le processus de guérison de ce qui est dans ce livre-là a été fait avant d'écrire le livre, sinon j'aurais pas pu écrire. D'ailleurs, on me demande souvent si l'écriture guéri. Dans mon cas, c'est guéri avant. Comme je pense que si j'avais pas été guérie, j'aurais pas pu nommer certaines choses d'une façon aussi précise ou imagée. L'autofiction me permet en fait en général de me cacher. J'avais pas envie de faire un récit biographique. Souvent, je me dis pourquoi est-ce que mon histoire à moi est spéciale? En fait, plus j'avance dans le processus du livre, plus je fais des rencontres en public, des conférences, tout ça, plus je me rends compte que mon histoire est vraiment pas spéciale. Puis il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent exactement la même chose que moi. En fait, moi, j'en ai parlé parce que ma méthode d'expression, c'est l'écriture. Et puis j'ai toujours été attirée par l'art, donc j'exprime cette histoire-là à travers des tableaux parce que je suis artiste visuelle et par écriture. Mais en fait, j'ai un peu le don de pouvoir la dire à un plus large public, cette histoire-là, d'une façon qui va intéresser les gens. Mais il y a plein de personnes qui se reconnaissent. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un événement, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me raconter son histoire à elle. Puis c'est frappant à quel point est-ce que cette histoire-là que moi je croyais vraiment spéciale, unique, l'est pas du tout. En fait, ça lui enlève aucune valeur. Justement, peut-être ça en ajoute à cette histoire-là, comme quoi toutes les histoires des autres, puis la mienne ensemble, ça a énormément, énormément d'espace. Je suis complètement perdue dans ma réponse. Donc, l'autofiction, ça me permet de me cacher. En fait, le côté fiction me permet de... Quand j'ai des questions, entre autres, qui sont un peu impudiques, je réponds « Ah, ben, on sait pas. » C'est peut-être de la fiction. Sinon, surtout, les bouts fiction, c'était pour la linéarité du récit. Donc, il y a des chronologies qui sont pas exactement celles... la façon que ça s'est passé, puis ça permettait de garder un certain focus dans l'histoire. Parce que moi, j'ai le grand défaut d'ouvrir plein de portes puis d'en fermer aucune. Puis ça fonctionne pas du tout quand on publie un livre. En tout cas, mon éditeur m'a bien expliqué qu'on peut pas faire ça. Donc, il y avait des portes que j'avais ouvertes, il y avait des sujets que j'avais commencé à aborder, mais que c'est soit je plongeais puis je les abordais complètement, soit je fermais la porte. Donc, il y a quelques portes que j'ai fermées pour ce livre-là. Et sinon, voilà.
On va essayer de rentrer dans le texte, qui est un texte très épidermique, on pourrait même dire hypodermique. Il est beaucoup question de peau, du corps sous la peau. Au tout début du texte, vous écrivez qu'on vous vole votre peau. C'est le récit d'une incarnation qui n'est absolument pas évidente. Il est question de transparence du corps, on l'a entendu tout à l'heure, mais aussi de trouer, le corps est troué, de dissociation cognitive, etc., la difficulté d'habiter son corps. Mais il est aussi question de la performance du corps à travers une forme de féminité assez stéréotypée et même outrancière. Je vais donner un petit exemple. Je connais les gestes par cœur, ce que je dois faire pour briller, pour donner envie aux hommes et aux femmes de m'avoir, Quand je saisis une bouchée sur un plateau, je la mange avec les doigts et je lèche en riant. Je suis simple, douce, sensuelle et drôle. Le temps d'une soirée, je suis cette femme mystérieuse et attirante qu'ils espèrent tous avoir. Celle que les autres femmes dédaignent et abordent en feignant des politesses, je fais de la magie. Pour une soirée, presque naturellement, je concentre toutes mes énergies à être une femme parfaite. Il est donc il est question des difficultés à être soi-même dans son corps et à s'habiter après les maltraitances familiales et sexuelles, mais également de ce que c'est que de se faire une sorte de coquille vide de la féminité, une sorte de réceptacle des pulsions ou des désirs ou jusqu'aux agressions des autres. Et je me demandais, en lisant ce texte, dans quelle mesure cette assignation à un féminin qui est tout le temps disponible, vu qu'on peut en user dès le plus jeune âge, et cette suggestion depuis l'enfance était source aussi d'une grande subjectivation, c'est-à-dire comme ça d'un point de vue extrêmement radical et qui est forcément subversive, car on vit et on voit ce que personne ne veut jamais voir, ni même ce dont personne ne veut jamais parler. Et je pense à Virginie Despentes qui a parlé de sujets similaires et qui en a fait comme ça une force de frappe dans une... j'ai été soumise à l'abjection totale, et ça fait que j'ai un point de vue forcément révolutionnaire parce qu'il va venir renverser tout ça. Et je me demandais si c'était quelque chose qui animait ce texte aussi.
C'est devenu ça, mais à la base, quand je disais plutôt qu'on parle de ce qu'on connaît, si j'avais été super bonne en violon, peut-être que j'aurais écrit un livre sur le violon, mais tout ce que j'ai connu, c'est ça. Donc, pendant longtemps, d'ailleurs, là... faut une chose à la fois, Michel. Mais ce livre-là parle du trouble de personnalité limite, dans le fond, qui n'a jamais été nommé, puis dans le livre... Et je ne sais pas si on est familier ici, familière avec ce diagnostic-là. Mais à l'époque, en fait, quand j'ai reçu le diagnostic de ça, j'ai compris plein d'affaires. Puis je l'ai reçu après avoir écrit le livre. Ça, en tout cas, c'est bien intéressant. On pourra reparler de ça à un moment donné. Mais l'idée de la peau qu'on n'a pas, de la perméabilité de la peau, c'est naturellement, c'est comme ça que je le vivais, c'est comme ça que je me sentais. J'avais l'impression que j'étais pas capable de contenir mes émotions, que j'aimais tout le temps trop fort, que j'étais tout le temps trop fâchée, que j'étais tout le temps trop triste. Il y avait aucune commune mesure entre mes émotions à moi puis les émotions des autres. Puis à chaque fois que j'essayais de les comparer ou de me reconnaître dans celles des gens avec qui je partageais, il manquait tout le temps quelque chose. Je me disais, non, mais c'est plus que ça, c'est plus intense que ça. Moi, quand j'étais en colère ou quand j'étais triste, j'avais envie de mourir. Là. C'était pas juste de la petite peine que je suppose... En fait, j'ai aucune idée de quoi a l'air la peine normale, là. Un peu plus maintenant, mais c'était vraiment... C'était vraiment un volcan. J'avais l'impression d'être un volcan qui explosait sans arrêt. Donc, j'ai écrit de la même façon que je vis. Puis, est-ce que je peux vous demander de répéter un peu la question? S'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu spontanée comme ça, mais...
Non, cette idée du renversement, de la suggestion, de l'humiliation, de la soumission, parce que c'est quand même un texte qui est très dur là-dessus, sur tout ce qui a été infligé au corps dès l'enfance, le corps de la petite fille, le corps de l'adolescente et de la jeune femme, etc., à la fois dans un contexte familial et puis dans un contexte sexuel ou amoureux. Et ce qui me semble... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture du livre, c'est que de cette position de soumission, il y a une forme de renversement par l'écriture et donc une grande force de subjectivation et de... Je ne dirais pas que c'est écrit avec la colère parce qu'il n'y a pas que ça.
Comme une reprise de pouvoir.
Tout à fait.
OK. Oui, ben oui, il y a une reprise de pouvoir, mais en fait, tout le monde est mort dans le livre. Ma mère est décédée, le beau-père est mort, j'ai jamais rencontré ou... Non, c'est pas vrai, mais je vois à peine mon père, je vois plus ma sœur, donc j'ai pas... Donc, la reprise de pouvoir, à la limite, je l'ai vraiment faite pour moi-même. Je ne l'ai pas faite pour assumer rien ou venger rien ou pour affirmer ça devant les personnes de ma famille. Là, c'était vraiment pour moi. J'avais pas l'impression de faire... Mon éditeur français parle beaucoup de manifeste, mais c'est plus, j'ai aucune idée. Moi, je savais pas que c'était ça que je faisais. Là. J'ai vraiment écrit un livre... qui parle des choses que je connais, puis ça s'est retrouvé à être quelque chose qui permet de libérer la parole puis d'aborder des sujets qui sont hautement d'actualité, malheureusement, mais des enjeux sociaux super importants comme les agressions, la pédophilie, la violence, etc. Mais au départ, j'avoue que Je voyais pas en quoi ça pouvait être un genre de manifeste. J'avais vraiment l'impression qu'on... À la limite, on objectifiait un peu mon enfance. Je me suis dit, OK, il faut arrêter d'en parler comme ça parce que moi, c'est ce que j'ai connu. Puis c'était même les moments très banals. Je pense, pour certaines personnes, ont l'air catastrophiques, mais... Admettons, quand je rentrais de l'école puis on m'enfermait dans ma chambre au sous-sol, pour moi, c'est pas quelque chose dont... J'y repense pas avec de l'amertume ou de la colère. Pour moi, c'était les moments calmes, puis c'est la normalité. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est d'être un enfant qui peut jouer dehors jusqu'à... Je sais pas quelle heure les enfants jouent dehors, j'ai pas d'enfant, mais... J'ai aucune idée de ces choses-là. Fait que le côté manifeste, reprise de pouvoir, révolte, tout ça est venu en publiant le livre puis en faisant « ouais, OK, c'est ça qu'on fait », tu sais. Je me suis laissée embarquer là-dedans, avec raison d'ailleurs, parce que c'est vraiment une fierté d'avoir le pouvoir de rejoindre des femmes puis des personnes qui s'identifient comme des femmes, en fait, qui ont vécu... les mêmes histoires que moi. Puis en fait, même si on n'a pas vécu les choses dont je parle dans le livre, je pense que les émotions sont universelles. Donc, je parle de la colère ou de la tristesse ou de l'amour d'une façon très, très intense. Puis je sais qu'il y a plein de personnes qui ressentent les choses de la même façon. Donc, même si on se reconnaît pas dans les histoires... Dans les événements, on peut se reconnaître, je pense, dans la façon que je les exprime, la façon que je les ai nommés, puis les émotions.
Ouais. Oui, je ne crois pas du tout que ce soit un manifeste. Je pense que c'est l'association avec King Kong Theory qui fait dire ça aux gens.
Oui, exact. Mais Virginie parle, c'est aussi son histoire, c'est son expérience.
Oui, mais elle y passe par une écriture de l'essai.
Oui, tout à fait.
Où elle mobilise des connaissances bien au-delà de son expérience. Elle, là, c'est pas la même chose.
Non.
C'est une mise en écriture d'un vécu personnel. C'est pas la même chose.
Oui, mais c'est pas non plus un récit. C'est ça le... En fait, je vous avoue, je saurais même pas l'argumenter, mon affaire, là. je sais que c'est pas un récit autobiographique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie qu'on le présente comme ça. Puis, je sais que c'est pas tout à fait non plus un essai, puis c'est pas tout à fait un roman.
C'est présenté comme un roman, je crois, oui.
Oui, c'est toujours présenté comme un roman. Hein. Il est toujours écrit roman quelque part.
C'est un texte, alors.
C'est un beau livre dont je suis fière.
Il y a un autre personnage en excès dans ce texte, c'est celui de la mère, qui est décrite comme immense. C'est une mère alcoolique qui visiblement était excentrique, abusive d'une certaine manière et assez dévastatrice. On lit ce livre aussi comme un livre de deuil et un livre d'amour pour cette femme qui avait l'air très complexe. Et je voulais juste en lire un petit bout. parce que c'est comme ça, ma mère était immense. Tout ce qu'elle incarnait était diabolisé ou méprisé. La spontanéité, la joie excessive, les crises, les dépenses déraisonnables, la folie, ce ne sont pas des choses que le monde aime. Ça fait immature. Mais quand même, j'y pense souvent. Je me dis que c'est peut-être elle qui avait raison. S'esclaffer sans demi-mesure, décorer l'appartement ou son corps pour n'importe quel prétexte, gémir et hurler à faire trembler les murs, ne pas abdiquer, même couverte de honte. C'est peut-être ça, vivre vraiment. Et il y a un autre moment dans le livre qui fait écho à ce passage sur la révolte et la nécessité de vaincre malgré tout en étant celle que l'on est. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle vous lègue, la révolte, la nécessité de faire ses propres choix et d'aller jusqu'au bout de ces choix-là?
Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je voudrais noter que c'est une des premières fois que j'entends quelqu'un lire mon livre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se plongent pas dans... En France, en tout cas, ils ne veulent pas lire les extraits, mais ils sont très bien lus, d'ailleurs. Donc là, on parlait de ma mère, oui.
Non, parce que dans le schéma des abus d'enfance, elle y contribue.
Oui.
Voilà. Mais il n'y a pas que ça, c'est plus complexe. Le portrait n'est pas univoque, contrairement à d'autres personnes ou personnages du livre.
Donc ma mère était... Je dis souvent, ma mère a fait du mieux qu'elle a pu avec qu'est-ce qu'elle avait, c'est juste qu'elle n'avait pas grand-chose. mais c'était... C'était une femme très, très, très intelligente, mais qui n'a jamais eu les ressources pour expandre et faire profiter les autres et elle-même de cette intelligence-là. Elle a été occupée toute sa vie à survivre. Et elle a été occupée à le faire d'une façon extrêmement toxique parce qu'elle-même avait vécu des violences dans l'enfance et à l'adolescence. Puis tout de suite, ma mère m'a eu très jeune. Donc, elle a tout le temps été occupée ensuite à essayer de faire vivre ma sœur et moi. Elle avait zéro temps pour réfléchir à ces enjeux-là par rapport à elle-même. Puis c'est un peu comme la pyramide de Maslow, mais l'idée de l'introspection face à soi-même, puis se demander c'est quoi notre valeur dans le monde, c'est vraiment pas à la base de ça, là. Avant, il faut se sentir en sécurité, puis il faut mettre de la nourriture sur la table, puis nourrir ses enfants, tout ça. Donc, elle a jamais atteint le niveau de confort puis de sécurité qui lui a permis de se poser à elle-même ces questions-là, puis de guérir ses propres blessures. Donc moi, j'ai aucune colère par rapport à ma mère du tout. Je sais parce que en devenant adulte, j'ai recréé exactement certaines choses que ma mère faisait. Inconsciemment ou consciemment, je sais pas. Mais j'ai recréé certaines choses. J'ai blessé des gens un peu de la même façon qu'elle blessait des gens. Donc j'ai beaucoup d'empathie puis de compassion pour qu'est-ce que ma mère était comme mère, mais surtout qui elle était comme femme. Et vraiment, l'acte de révolte, en fait, qui est très inspirant, puis là, c'est très intime, tout ça. C'est rare que je me rende jusque-là en parlant de ma mère, mais ma mère, elle s'est suicidée. Puis ça a été très... au début, évidemment, j'étais en colère, parce que je pense que c'est un sentiment normal. Mais au final... Ma mère, c'est la seule chose qu'elle a décidée pour elle-même dans sa vie. Puis c'est très... on peut faire un débat là-dessus. Là. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre le suicide. Et puis à la base, j'ai même pas d'opinion là-dessus. Moi, je sais juste que ma mère, c'est le seul geste qu'elle a fait pour elle-même sans se préoccuper deux minutes de qu'est-ce que les gens allaient penser, de ce que les gens voulaient. Et là-dedans, j'ai vu de la révolte qui est inspirante pour moi. Par contre, cette idée-là fait pas du tout l'unanimité. puis c'est rare que je partage cet état-là, cette réflexion-là que j'ai eue, puis cette constatation-là. Mais quand même, il y a quand même un éclair de beauté dans le fait qu'à la toute fin, elle a repris le pouvoir sur son existence d'une façon qui est discutable, certainement. Mais ça s'est produit, c'est arrivé finalement. Puis ça a repris 43 ans, elle est morte à 43 ans, c'est très jeune. Mais finalement, c'est arrivé. Puis j'essaie de voir les choses de cette façon-là parce que ça, c'est plus positif pour moi que de voir un désespoir possible ou un mal de vivre pour lequel moi, j'aurais pu rien faire, ni ma sœur d'ailleurs. Mais cette révolte-là de ma mère, je pense que ça m'a inspiré pour le côté un peu révolte du livre. Ouais.
Au fil des pages qui donc décrivent les sévices, entre autres, perpétrés par le beau-père et les maltraitances de certains amants, le texte dissecte ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, viriliste, machiste, sexiste, violente, on pourrait même aller jusqu'à toxique, ici carrément mortifère. Et plus loin, vous écrivez « Je déteste les hommes ». Alors, ça m'a fait penser au titre d'un livre qui a eu pas mal de succès ici en France. Le texte est clairement féministe. Je me demandais s'il y avait une revendication d'une certaine misandrie aussi.
C'est super intéressant parce que ce passage-là n'est pas publié dans la version québécoise. Et... au Québec, je pense que j'aurais jamais eu le courage de...
Celui que j'ai oublié de lire, mais je le lirai juste après. Celui sur les hommes.
Celui
« Je déteste les hommes ».
Oui, exact. Donc, le bout « Je déteste les hommes », alors rassurez-vous, j'ai quand même quelques amis garçons. Tout n'est pas perdu, mais...
pas tous les hommes.
Non, exact. Puis, c'est un élan de colère et de révolte qui m'a été inspiré par le fait que l'éditeur français voulait absolument que ça ait l'air d'un manifeste. Puis... Puis là, il voulait que je laisse aller ma colère. Donc, que j'ajoute un passage sur la colère. Et puis, ça a donné ça. Et on m'en parle beaucoup. Et, heureusement, c'est pas une colère dans laquelle je suis tout le temps. Mais la misandrie, bouf. On dit souvent que... la misogynie a tué beaucoup, la misandrie n'a jamais vraiment tué personne. Donc, je pense qu'il y a une certaine dose de misandrie qui est nécessaire à la révolte féministe, mais ça aussi, c'est un long sujet. D'ailleurs, je ne fais pas partie des gens qui pensent que... S'il vous plaît, haïssez-moi pas. Mais je pense pas... je fais partie des gens qui ne pensent pas que les hommes peuvent s'appeler féministes, peuvent pas se qualifier de féministes. Mais je pense qu'il y a, des éléments de la misandrie, clairement. En tout cas, je peux pas faire à semblant que non. Là. Je pense que c'est quand même assez clair.
Oui, je vais lire la fin des remerciements que j'ai beaucoup aimé. Aux enfants seuls, aux mères monoparentales, aux femmes fortes et increvables, à toutes celles qui ne correspondent pas au soulèvement de passion qui enjolive l'existence et que personne ne comprend, aux amitiés qui ne réconfortent pas, à la volonté de vivre qui se trouve quelque part, promis, à la sororité. À toutes celles-là, merci. Et à tous les hommes cisgenres qui essaient de nous faire taire, à ceux qui ne croient qu'à moitié, à ceux qui se disent féministes et alliés, mais qui utilisent leurs privilèges pour nous rabaisser, à tous ceux qui se sont permis d'entrer sans permission et qui nous demandent de tendre l'autre joue. You can all go fuck yourselves.
Oui.
C'est très clair. Mais ce que j'aime, c'est que le pendant de la misandrie, c'est la sororité.
Oui, tout à fait. Après, encore là, c'est mon expérience à moi. Moi, j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Là. Moi, je suis une personne super douce puis très positive dans la vie. Puis malheureusement, j'aime beaucoup... je suis attirée par les hommes. Ça m'énerve, vraiment. Mais ça s'est jamais bien passé. Ça prend « it takes two to tango », là, qu'on dit. Puis je sais que moi, je suis féministe, puis je suis super intense dans mes relations, donc ça a son lot aussi de misère qui j'apporte avec moi. Mais ça s'est jamais bien passé, puis comme je disais, je parle de ce que je connais. Donc je pense que la misandrie vient clairement de mon expérience. Je suis ouverte à ce que ça change complètement. Je suis vraiment de bonne foi.
Oui, et puis de l'espoir.
Oui, ben oui, il y a de l'espoir, bien sûr. Ça prend de l'espoir pour publier ce livre-là, quand même.
C'est très intéressant, du coup, c'est l'éditeur français qui a demandé à ce qu'on ajoute des passages dans le livre pour mettre un soupçon de quelque chose.
Je pense que dans la façon que je m'exprimais avec lui, il voyait que j'avais une certaine retenue pour la colère, entre autres. Puis il y a des passages comme le bout qui commence par « Depuis que je suis née, les hommes... » Ah non, « Les hommes d'où je viens ». Et puis je décris les hommes d'où je viens.
C'était le passage que je voulais lire.
Oui. Et donc ça c'était mon bout à la base qui était tempéré. Donc j'avais mis beaucoup de mots doux. Puis j'avais assoupli certaines choses. Je me disais, c'est mon mea culpa pour ne pas me faire haïr de tout le monde. Puis finalement, Benoît, l'éditeur, disait, « Non, ça va pas, faut y aller, faut que ça punche, faut que tu le dises. Pourquoi t'es fâché? Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu le nommes. » Fait que là, ben, en québécois, on dit qu'il m'a bien crinqué. Puis là, ben, j'étais bien crinqué. Fait que j'ai réécrit certains bouts du livre pour l'édition française. Et là, le point, c'est que j'aurais pas eu... Peut-être maintenant, parce que là, j'ai l'expérience de la première tournée québécoise qui a duré un an et demi. Peut-être maintenant, mais à l'époque, j'aurais pas eu le courage du tout de porter cette version-là au Québec. Pas avec des gens que je risque de croiser à l'épicerie et au dépanneur. Mais ici, je sais pas, mentalement, psychologiquement, il y avait l'autre continent, il y avait l'autre côté de l'océan. Il y a un truc d'espace qui me permettait d'être plus à l'aise dans le fait de revendiquer puis de dire les choses crûment.
Oui, c'était noté quand même. Je suis en tabarnak, maman.
Oui. Ouais.
C'était là quand même. On
ouais.
le sent.
Oui.
Bon, je vais lire l'extrait quand même, mm-hmm. parce qu'il est fin, moi, je trouve. C'est moins brut de décoffrage que... Voilà, ça montre peut-être la complexité. D'où je viens, les hommes ont de la corne aux doigts et le côté intérieur des index jauni par la cigarette. Leurs cheveux sont courts et conservent une odeur de sébum. Dans leur cou, ça sent le gel douche tout en un, Old Spice ou Irish Spring. Un peu l'huile à moteur, un peu le pot. Leurs dents sont tachées comme des coquilles d'œufs des poules de la campagne. Ce sont des hommes au rire gras et sonore qui s'esclaffent en tapant la table de leurs paumes et qui se raclent la gorge avant de cracher par terre. Dans leur garde-robe, ils possèdent tous une chienne, des chandails Harley Davidson, des bottes achetées au seul magasin de chasse et pêche de la région. L'hiver, ils ne portent pas de tuque, juste des casquettes. Ils savent gosser du bois, patenter la plomberie, rabouter l'électricité. Les hommes d'où je viens sont têtus, capables de se faire arracher des ongles par des moteurs de skidoo sans pleurer, de monter et de démonter des machines, n'importe lesquelles. Les hommes d'où je viens sont forts, petits, trapus et leurs mains ressemblent à des biscuits à la mélasse. Dans leurs ateliers, on trouve des guenilles fabriquées à partir de vieux t-shirts, des cendriers pleins, une cruche d'eau remplie de seine noire, des outils passés de génération en génération et un calendrier de madame toute nue. Le calendrier, c'est la seule chose qui change vraiment au gré du temps. Les hommes d'où je viens portent rigoureusement attention à tourner chacune des pages au bon moment pour suivre les mois. Je les ai souvent imaginés feuilleton le calendrier au complet en début d'année, puis être excités en tournant les pages mois après mois, sachant que la photo de leur fille préférée s'en venait. Quand je regardais les calendriers en cachette, petite, je trouvais ma préférée, moi aussi. Souvent, c'était elle avec les meilleures proportions, les proportions les plus saines, mettons. J'essayais de fantasmer sur un idéal un peu atteignable, mais ça en poussait sous des pluies de remarques sexuelles inadéquates et j'ai fini par ne plus entendre. Les hommes d'où je viens disent « ça pousse, cette belle fille-là » en regardant mon corps de bas en haut pour évaluer le progrès, s'assurer que ça s'enligne dans la bonne direction, comme si leur approbation était essentielle. Ces hommes-là ont tous des garages où on peut aller, mais seulement quand on demande la permission. Des garages qui sentent l'essence et la fumée de cigarettes. Des hommes qui se retrouvent le samedi, en fin d'après-midi, une canette de bière à la main, la porte du garage ouverte, souvent habillés avec des pantalons, un coat et des bottes, tous au motif de camouflage. Ces hommes-là, je les ai longtemps enviés et méprisés, ce comme mon père. J'avais l'impression qu'ils m'épiaient du fond de leur garage. J'avais l'impression que peu importe le malheur qui arrivait, ils pouvaient en être et la cause et la solution. Je les accompagnais au tournoi de pêche, aux rides de quatre roues à travers les épinettes noires, quand ils partaient chasser la perdrix, poser des collets, à la pêche sur la glace, au Canadian Tire. Plus vieilles, certains m'ont laissé aller au motocross, m'ont regardé faire moi-même des trous dans la glace pour pêcher. D'autres ont accepté de m'expliquer à quoi ça sert une bougie pour le char et où on achète ça. Beaucoup m'ont appris à me débrouiller, mais je devinais continuellement leur réticence. Ils m'ont emmenée en skidoo à travers la forêt et m'ordonné de me déprendre toute seule dans la neige. En sueur, trop petite pour être apte à m'en sortir sans blessure et sans pleurs, ils ne prenaient pas de gants blancs pour me parler, disaient les affaires directement, disaient que j'étais capable d'en prendre. J'ai grandi en entendant « Hey Manoir, t'es donc ben... Voilà.
J'ai grandi en entendant « Hey Manoir, t'es donc ben Thomas, petite boquée, choque-toi pas de même, arceau d'ici. » Là, on est dans le deep québécois. Voilà.
Il y a une traduction en français, on va dire. « Parmi les hommes d'où je viens, aucun n'a respecté que j'étais une enfant. Ils m'ont tous gênée en ziotant ma poitrine naissante. Ils prétendaient m'emmener avec eux de bon cœur, mais prenaient plaisir à me regarder dépecer un lièvre en pleurant ou changer le fil d'une canne à pêche, les mains lacérées par mes efforts. Ils me rappelaient constamment que je devenais une femme. » Pas un regard ambigu ou un commentaire calculé, il me faisait comprendre que j'avais un potentiel érotique. Parfois, il ne m'accordait aucune attention et j'étais tiraillée entre la frustration d'être ignorée et la joie de l'être. Quand il se retrouvait autour d'une bière et qu'il parlait des pitounes qu'il trouvait belles en maudit, je me sentais délaissée malgré moi. Je n'étais qu'une enfant intruse dans cet univers d'hommes. Je les entendais parler de femmes à demi-mot, en se faisant des clins d'œil. Et je me demandais si quelque part un groupe d'hommes comme celui-ci parlait de moi avec les mêmes mots, les mêmes regards. Je les trouvais vulgaires. Je trouve que là, qu'il y a une ambivalence, c'est-à-dire ils sont à la fois la cause et la solution de beaucoup de choses. On veut être ignoré et à la fois... voilà, l'ambivalence qui rejoint cette ambivalence aussi qu'on trouve... dans le statut d'être une femme dans le monde tel qu'il est. C'est pas moi qui le dis, Simone de Beauvoir l'a dit, les beauvoiriennes qui reprennent le flambeau le disent. Camille Froidevaux-Métairie, elle parle de ce qu'elle appelle un paradoxe contemporain propre aux femmes, celui d'une condition féminine simultanément libérée et aliénée. Et je trouvais que ce passage-là, en fait, parlait de ce double mouvement en déplaçant un peu le focus.
Oui. Un bout plus loin dans le livre, d'ailleurs, je dis que ma mère était la seule femme que moi j'ai vue faire partie de ces moments-là entre hommes dans le garage. Puis je pense que la femme avec laquelle j'ai été le plus en compétition dans ma vie, c'était ma mère. Parce que c'est un gros truc aussi, mais parce que l'homme qui perpétrait les abus sexuels était aussi l'homme qui couchait avec ma mère. Donc souvent, c'était des actions qui se passaient dans la même soirée. Il y a vraiment eu... c'est un sujet d'ailleurs que j'essaie d'articuler moi-même dans mon esprit, mais ça, c'est fascinant de cette histoire-là de compétition entre mère et fille. Que moi, j'ai beaucoup vécu comme ça, en fait, parce que ça a été très long avant que j'aie des amies filles. J'ai une amie, Josée, à qui, d'ailleurs, le livre est dédié au tout début. Mais sinon, j'ai jamais été entourée par des femmes, justement parce que c'était tellement imprimé dans mon esprit, l'esprit de le sentiment d'être en compétition continuellement avec ma mère. Ça se transposait automatiquement aux rencontres avec des femmes que je faisais. Puis d'ailleurs, plus loin ou plus tôt, je me souviens pas, dans le livre où je dis « j'aimerais tellement ça qu'elles veulent de moi dans leur équipe », mais on aurait dit pendant longtemps que malgré toute la bonne volonté du monde, j'arrivais pas à ne pas les voir comme des ennemis dans ce que j'avais besoin de faire et d'être pour me sentir valorisée auprès des hommes. depuis longtemps, pour plein de raisons, mais parce que c'est lié à des traumatismes d'enfant. Je pense que ça a pris le dessus, le fait d'être valorisée sexuellement dans mon désir, dans mon physique pour les hommes, par rapport à mes relations avec les femmes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais je sais que quand j'ai commencé à faire du travail sur le retour de cette enfance-là, puis analyser certaines choses, je me suis rendu compte de cette ampleur-là de compétition qu'il y avait entre nous. Puis d'ailleurs, il y a un texte que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, puis j'en parle dans le livre, mais même quand ma mère était pas là, elle est toujours là, je dis ça, parce qu'on aurait dit que même dans sa mort, elle essayait d'avoir toute l'attention, tu sais. Pendant un bout, j'étais fâchée contre elle parce que je me disais, comme là, elle est partie, puis encore parce qu'elle est partie de cette façon-là, grandiose, entre guillemets, tout le monde parle que d'elle, tout le monde se rappelle que d'elle, puis moi, je suis encore effacée. Fait que même dans le décès de ma mère, ça a été vraiment un élément, le bout de compétition avec elle. Ça a pris beaucoup de travail, puis maintenant, c'est tout l'inverse. Là. Je suis entourée que de femmes dans ma vie, mais clairement, ça a pris beaucoup peut-être plus d'efforts et de travail que certaines autres personnes pour la sororité. Ça a été long dans mon cas.
Oui, il y a une culture de la rivalité féminine.
Ah oui, oui, oui.
Bref. Il y a une constellation de références dans ce livre que j'appellerais les œuvres compagnes, qui comme ça scintillent au creux des pages. Alors il y a Virginie Despentes, on en a un peu parlé, Marguerite Duras, Anaïs Nin, Annie Ernaux, Valérie Solanas. Il y a quand même un biais affirmé.
Ah oui, oui, oui.
Elles sont citées directement dans le texte et elles sont accompagnées de quelques héroïnes identificatoires, Anna Karenine, Emma Bovary, Mademoiselle Liberté. Il y en a certainement d'autres qui ne sont juste pas citées. Et je me demandais ce que vous deviez à ces autrices ou à ces personnages et qu'est-ce qu'elles vous ont appris.
Alors, tout, complètement. Hier, justement, je racontais que j'étais à la remise des prix de l'édition au Théâtre Odéon à Paris. C'est un événement très fancy. Et il y a un prix qui a été remis à Annie Ernaux. Mais moi, pour être honnête, j'y allais que pour espérer la voir du haut de ma petite place de merde derrière tout. Ouais, je suis une fan complète de ces autrices-là. Et je porte une attention vraiment particulière à chaque fois qu'on me demande des références de livres, de ne nommer que des personnes queer, des personnes trans ou des personnes qui s'identifient comme des femmes, parce que je trouve que ça a été vraiment mis de côté longtemps comme littérature. Donc, dans ce livre-là, j'ai vu là la possibilité de nommer, de même très brièvement, mais de reconnaître un peu à quel point ces autrices-là ont marqué mon désir de vouloir écrire, mon rêve même, depuis que je suis toute petite, de vouloir écrire. C'est des autrices que j'ai reconnues comme, pratiquement comme des amies dès les premières lectures que j'ai faites de leurs œuvres. Le seul auteur, en fait, que je nomme pour le personnage de Mademoiselle Liberté, dans lequel je me suis absolument identifié toute mon adolescence, c'est Alexandre Jardin. Puis j'ai rien à dire sur Alexandre Jardin, dans le fond, mais Mademoiselle Liberté, j'avais l'impression qu'elle se rapprochait de l'amour incroyable auquel elle se dévoue pour ce prof-là de lycée. Puis j'avais l'impression d'être reconnue dans cette amoureuse-là, transie, puis qui était prête à tout pour que cette histoire-là soit un chef-d'œuvre, sinon rien. Annie Ernaux, c'est quand même une pionnière de l'autofiction française. Passion simple, ce livre-là, je l'ai lu et relu, et tellement relu à l'époque où moi-même j'ai fait des très mauvais choix. Mais j'étais absolument passionnément amoureuse d'ailleurs. Il y a quand même une histoire d'amour dont je parle dans le livre. Mais d'un homme marié avec 3 enfants, non, c'est vraiment un mauvais choix. Mais cette espèce de passion-là qu'elle avait et qu'elle était capable de nommer, qui était obsédante, en fait, je pense que j'ai essayé de faire une piètre imitation de nommer cette espèce d'obsession-là qu'on a quand on vit une passion qui est à la longue, vraiment, j'ai compris, c'est pas du tout de l'amour, c'est pas la même chose, une passion, mais c'est dévorant, c'est incendiaire. Puis vous pouvez imaginer que pour quelqu'un qui ressent à ce point-là les choses, ça c'était... En fait, ma copine actuelle, elle me disait « Est-ce que tu le referais si tu pouvais? » Puis la réponse, c'est « Je sais pas, mais j'hésite vraiment à dire non. » Tellement ça m'a mis dans des états que dévastateurs, vraiment. Mais ouais, Annie et Ernaud savaient très bien nommer cet état-là, de même l'obsession dans les petits détails, dans les magasins, sa préoccupation constante de vouloir avoir des vêtements parfaits, puis toujours différents pour chaque occasion, alors qu'ils s'en foutaient complètement, puis dès qu'ils arrivaient, ils enlevaient les vêtements. Ce genre d'obsession-là, vraiment. Puis lesquels? Valérie Solanas. Bon, l'autre jour... Ah oui, retour sur le manifeste. Bon, c'est quand même un personnage complètement fou, cette Valérie. L'autre jour, dans un article au Québec, je sais pas, c'est peut-être en France, on m'a appelée la Solanas des années 2000. Je me suis dit, bon, dans la lignée, les choses pour lesquelles je peux me faire haïr, il y a... ça, c'était quand même un commentaire étonnant. Et quand même, je trouve que c'est quand même plus doux, mon livre, que son manifeste. Je sais pas si vous avez lu comme manifesto, mais...
C'est une provocation.
Ah oui, ben oui, c'est une
comme
provocation.
Comme des pentes.
Oui, tout à fait. Mais il y a quand même, dans comme manifesto, il y a quand même plusieurs niveaux, là. Il y a un deuxième, un troisième niveau. Il faut vraiment comprendre un peu l'ironie, puis la subtilité de son discours, parce que lui, au premier degré, je veux dire, ça va pas du tout. puis Virginie Despentes, ben, si jamais quelqu'un la connaît, c'est vraiment mon rêve de la rencontrer pendant que je suis en France. Mon éditeur essaie vraiment de travailler fort en ce moment pour qu'on puisse aller prendre un café ensemble. C'est quand même quelqu'un de très occupé. Mais ça m'a fait... Un peu le même effet que Nelly Arcan quand j'ai lu Putain en cachette quand j'étais très petite, mais quand j'ai lu King Kong Theory, je me suis vraiment dit OK, encore une fois, on peut dire ces choses-là, on peut les articuler, on peut les nommer. Puis c'est correct, c'est juste une vérité différente, c'est juste une revendication différente, c'est une façon de voir les choses qui, si moi, m'a appelé autant, ça veut dire que ça a sa place. Puis. C'est par admiration, souvent, que j'ai été encouragée dans ma pratique d'écrire, vraiment.
Très bien. Est-ce que vous auriez des questions ou des remarques ou un partage? Je crois qu'il va y avoir un micro qui va circuler.
Alors, on se garoche, comme on dit au Québec. Mais peut-être, je ne sais pas si ça vous tente, mais moi, je pourrais lire un petit extrait en québécois pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Est-ce que tu avais une demande d'extrait précis? Par hasard?
Non.
Ben, je peux vous lire le bout qui est... celui qui commence par « Je déteste les hommes ». Tu sais, tant qu'à être en France puis l'avoir écrit pour la France, je le lis à chaque fois. Je me souviens même pas c'était à quelle page.
C'est juste avant 132, ça doit être 130.
Ah oui. Bon, j'espère que vous êtes prêts. « Je déteste les hommes. Depuis toujours, depuis que ma mère m'en présentait, depuis que je savais qu'il faisait jaillir d'elle des cris et des plaisirs que je ne pouvais pas encore imaginer. » Puis, quand j'ai su les imaginer, je les en ai détestés encore plus. Mais, comme elles, je ne peux pas m'empêcher de chercher leur approbation à tout prix. Je veux les voir me choisir, me désirer. Dans mes rêves, les hommes se démultiplient autour de moi, forment une grande guignolée. Ils se tiennent larges et ouverts, jambes décroisées, écartées. Ils me regardent leur demander un peu, presque rien, un retour minime, n'importe quoi pour me remettre de leur abandon continuel. À genoux, les yeux bandés et les mains vides, je les supplie de me laisser me relever. Je cherche à tâtons autour de moi, espère les agripper, recevoir leur peau sur moi, tout recevoir d'eux pour enfin les rejeter. Mes demandes et mes besoins les amusent, puis les sidèrent et les exaspèrent. Je conjure, je supplie. Dans mes rêves, je suis parfois nue, parfois vêtue. Qu'importe, ça ne plisse jamais leurs visages amusés. Leur charité et leur peau demeurent à distance. Ils ne me doivent rien, ne demandent rien. Ils exigent et prennent. En cercle autour de moi, leur queue me pointe et m'accuse. Elles me harcèlent jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je ne sais pas ce qu'elles veulent, mais il faut que je dise oui, que je leur donne. C'est la seule manière de sortir de ce cauchemar, de me réveiller. Je déteste les hommes. Ils me poursuivent jusque dans mes rêves, jusqu'au fond de mes nuits où je cherche à reprendre mon souffle. Je les déteste car ils sont vulgaires et narcissiques, qu'ils ne font rien d'autre que de se congratuler les uns les autres d'avoir tout pris, tout conquis. Ils ont pris ma mère et ils me prennent moi. Chaque homme qui pénétrait ma mère m'a pénétré, et chaque fois qu'un homme me pénètre, il pénètre le spectre de ma mère. Tous ces hommes s'étendent sur des bancs des métros, sur les bancs des métros, des autobus, des salles d'attente. Ils se répandent dans mon visage et sur mes cuisses, sous mes ongles et jusqu'au trémolo de ma voix. Ma souffrance et ce que je dois faire pour l'apaiser, ce n'est pas leur problème. Le monde est dur. La compétition demande de jouer du coude et d'avoir les couilles de le faire. Leur tête dépasse toujours la mienne. Ils se tiennent haut. Je ne vois que leur menton, leur pomme d'Adam, des rappels de trahison et de gicleurs reçus en pleine face. La vérité, c'est que je ne peux pas tout avaler d'eux et ils ne me le pardonnent jamais. Je voudrais les expédier, les renvoyer, les jeter. Vomir l'ensemble des spermes que j'ai avalés en un seul jet magnifique. Les voir se branler tous ensemble une bonne et dernière fois. Qu'ils éjaculent dans une symphonie gutturale grotesque. Puis qu'ils se mutilent entre eux. Qu'ils s'entretuent au nom de la plus grosse queue. Je dessinerais un nom qui épouserait toutes leurs formes parfaitement. Les couvrirait d'un épais manteau de liane qui s'enroulerait autour de leur nuque et ferait saillir les veines de leurs tempes. Je voudrais les voir descendre de leur piédestal, être désemparés, vaincus, rampants et horrifiés, et enfin pouvoir dormir. Je suis pas toujours fâchée comme ça. Ben merci beaucoup. Est-ce que c'était terminé?
Je sais pas. À moins qu'il y ait d'autres.
À moins que vous ayez des questions, moi, je suis là.
Ou sinon, de manière plus individuelle aussi, c'est tout
à fait
possible.
Ben oui, tout à fait. N'hésitez pas à venir me voir. Je suis gentille. Même les garçons, ça va. Puis sinon, ben merci beaucoup d'être venu, c'est très gentil.
C'était Rencontre avec Michel Lapierre-Dallaire autour de son livre « Y avait-il des limites ?» Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. Paru au Nouvel Attila.
Sur le livre dormir.